à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio B. Je m'appelle Dario et je suis accompagné d'Eva et d'Adriano. Nous allons vous présenter une émission sur les réfugiés climatiques.
Bonjour.
Une émission spéciale préparée avec notre classe de 4e D du Collège Saint-Exupéry en Berry-en-Bugey.
Au programme de notre émission, un micro-trottoir où vous entendrez les adultes de notre collège. Un papier sur les idées reçues, suivi d'un autre sur les causes du changement climatique. Ensuite, nous aurons une chronique sur la mort d'un glacier, puis l'interview d'un réalisateur du documentaire. Nous terminerons avec une fiction et une chronique pour voyager.
Mais on parle pas de notre invité surprise ?
Chut !
Oups.
Radio B.
Commençons par le micro-trottoir d'Arthur, Younes et Kylian.
Si on vous dit le mot migrant, à quoi pensez-vous ?
Les personnes qui se déplacent et qui doivent avoir des soucis dans leur pays.
La première image qui me vient, c'est la jungle de Calais, quand même, par exemple. C'est-à-dire des gens, effectivement, qui fuient leur pays, notamment à cause de la pauvreté, pour trouver un pays plus riche qui est capable de les accueillir, de bien les loger, de leur trouver du travail. Et je pense que c'est des gens qui, bien souvent, n'ont pas le choix s'ils viennent chez nous. Et parce que nous sommes en capacité de bien les accueillir et de les faire vivre mieux que dans l'endroit où ils vivent actuellement.
Mais aux personnes qui ont dû quitter leur pays pour différentes raisons, raisons politiques, économiques, climat justement.
Donc je pense aux gens qui quittent leur pays pour aller vers des cieux plus cléments, vers des contrées où il y a moins de violence, où il y a peut-être du travail, etc.
Pour vous, qu'est-ce qu'un réfugié climatique ?
C'est un réfugié qui a été déplacé parce que il y a des soucis de climat dans son pays et que, par exemple, des inondations ou une tornade et qu'il ne peut plus vivre là où il vit d'habitude.
Alors, c'est la première fois que j'entends ce terme-là. Maintenant, un réfugié climatique, ça doit être quelqu'un qui, du coup, est obligé de fuir son pays parce qu'il a subi des dommages dans ses biens personnels pendant une catastrophe naturelle, je pense.
On peut penser à des personnes qui auraient des problèmes à cause d'inondations dans leur pays, qui n'auraient plus de toit et qui chercheraient à trouver une solution pour s'héberger.
Un réfugié climatique, c'est quelqu'un qui doit quitter son pays, souvent à cause de la montée des eaux. Je pense aux gens qui vivent dans des îles du Pacifique, entre autres.
Un réfugié climatique, alors normalement, ce terme n'a pas lieu d'être, puisque quand ils vont à la préfecture, il n'y a pas réfugié climatique. Donc souvent, c'est lié à la pauvreté, puisqu'en fait, le changement de climat leur enlève bien souvent l'eau potable, la nourriture, je pense aux pays d'Afrique. Il y a de plus en plus dans certains pays de coulées de boue, par exemple, donc ils perdent beaucoup de choses liées au climat. Et effectivement, ils sont obligés de venir chez nous. Mais quand on voit les intempéries qu'il y a en ce moment chez nous, on remarque que le climat a aussi une influence en France maintenant.
Quelle serait votre réaction si on vous demandait d'héberger des réfugiés chez vous ?
Alors ça, c'est... Je ne sais pas réellement, honnêtement, comment je ferais. Après, c'est une question de confiance, rencontrer peut-être les gens à l'avance pour voir si ça peut fonctionner et puis avoir aussi un lieu d'accueil suffisamment agréable pour eux.
Bah, c'est compliqué comme réponse à donner parce que forcément, on a envie d'accueillir des gens. Mais après, il faut que toute la famille soit d'accord, il faut avoir de la place à la maison. Et c'est pas simple comme réponse.
Quelle serait votre réaction si on vous demandait d'héberger des réfugiés chez vous ?
Eh bien, tout d'abord, je serais interpellée. Je ne serais pas directement défavorable, mais j'aurais besoin d'informations un peu complémentaires sur un petit peu leur état de présence chez moi.
Bah après, ça dépend. Si j'ai de la place chez moi et que c'est possible, je pense que je le ferai volontiers. Ouais. Surtout si c'est une famille avec des enfants.
Ah, ma première réaction, on a tous envie de les aider, ces personnes-là, parce qu'ils ont quand même quitté leur pays et ils ont tout laissé tomber pour... à cause d'une raison, que ce soit politique ou économique. C'est vrai, on ne sait pas sur qui on va tomber. On a toujours une crainte comme ça vis-à-vis de l'inconnu, et ce qui est dommage, hein, d'ailleurs, en tant que personne. Mais j'espère en tout cas, et j'aimerais que ma première réaction soit de pouvoir, oui, d'accepter tout de suite de les héberger, effectivement.
Alors moi je dirais tout de suite au départ oui, effectivement, et les loger oui, mais leur trouver du travail surtout, leur apprendre la langue française. Après moi je connais quelqu'un qui loge des migrants pendant un temps donné, pour leur donner déjà de quoi se nourrir correctement, leur permettre de s'acclimater au pays qui les accueille.
Merci à toutes les personnes qui ont répondu aux questions du micro-trottoir. Maintenant, pour y voir plus clair, nous écoutons Toine et Julien avec leur vrai ou faux.
Bonjour, nous sommes Toine et Julien. On est là pour...
casser les idées reçues.
Alors, prêt, vrai ou faux? D'après toi, Julien, vrai ou faux? Les migrations, c'est toujours les gens du sud qui vont vers le nord.
Faux. L'Afrique et l'Asie sont vraiment touchées, c'est sûr. Les îles du Pacifique aussi, mais à cause du réchauffement climatique, on trouve aussi des problèmes chez les Inuits en Alaska, ou au Canada, ou au Groenland. À toi. Alors, Toine, vrai ou faux? Les migrations sont souvent dues aux problèmes rencontrés par les habitants d'un pays, comme la guerre, la sécheresse.
Vrai. Dans l'Europe aussi, des personnes vont migrer à cause des changements climatiques. Les habitants de Venise, par exemple, sont en danger à cause de la montée du niveau de l'eau. D'après toi, Julien, vrai ou faux? La grande majorité des migrants sont des hommes.
Faux! Plus de 48% des femmes migrent vers d'autres pays. Allez, une petite dernière. Vrai ou faux? Seules les personnes pauvres et sans qualification migrent.
Faux. Migrer a un coût. Il faut financer le voyage, les papiers et parfois les passeurs. Parmi les personnes migrantes, 63% ont un diplôme équivalent au bac. Et d'après l'Institut national des statistiques et des études économiques, 40% sont diplômés de l'enseignement supérieur.
C'est vrai, on les a cassés, les préjugés.
On vient de l'entendre. Il reste beaucoup d'idées reçues à déconstruire. C'est pour ça que Rémi Maxime, Anaïs et Fatima ont demandé l'avis d'un passionné de montagne pour expliquer le changement climatique.
Bonjour à tous, je m'appelle Rémi Maxime.
Je m'appelle Fatima.
Et je m'appelle Anaïs.
Aujourd'hui, il faut faire le point sur ce que l'on appelle le réchauffement climatique. Les filles, vous avez eu la chance d'interviewer un passionné de montagne météo, Monsieur Laurent Guillaume. En plus, il est responsable de Chronique d'en haut, le magazine de la montagne sur France 3. Normalement, vous êtes un collab. Alors Fatima, c'est quoi le réchauffement climatique?
En fait, il vaudrait mieux parler de changement climatique ou de dérèglement climatique. Car même si la température moyenne de l'atmosphère terrestre augmente, certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, comme le pôle sud par exemple.
Ah, ça explique des épisodes extrêmes un peu partout. Ça me fait penser à la grosse vague de froid ces dernières semaines aux États-Unis. Sinon, je me demandais, ce changement ou dérèglement climatique, il est quand même pas arrivé du jour au lendemain. Tu sais qui a tiré la sonnette d'alarme, Anaïs?
Bah, les scientifiques, bien sûr. Et surtout un certain... professeur Laurius. Lui, il a eu l'idée d'analyser les bulles d'air des glaces de l'Arctique. En clair, il a pu prouver que quand le CO2 est plus concentré dans l'atmosphère, il fait un peu plus chaud sur la planète. Ça, c'est le fameux effet de serre. Sans surprise, c'est les activités humaines qui rejettent le plus de CO2 dans l'atmosphère.
C'est fou, du chaud, du froid, et quand je pense à toutes ces tempêtes, ces orages et ces chutes de neige, tout ça à cause de l'homme, nos parents n'ont pas dû connaître.
Mais si, faut pas tout confondre. Il y a le climat qui concerne les moyennes des températures des précipitations sur 30 ou même 40 ans, et puis la météo qui concerne le temps du moment. En gros, certains phénomènes extrêmes, surtout en montagne, ont toujours existé. Mais ils étaient moins fréquents. Ça, c'est sûr, on peut le mettre sur dos du changement climatique. Le truc, c'est d'attendre d'avoir assez de recul pour en tirer des conclusions.
Et oui, maintenant ça paraît évident. Et tout ça me fait penser à notre rencontre avec Stanzine Dorje, le réalisateur Ladaki. Vous vous souvenez ? Il est venu nous parler de la fonte des glaciers dans son pays.
Mais oui, on se souvient. D'ailleurs, Laurent Guillaume s'est aussi intéressé à la disparition des glaciers. Il sait que les Alpes se sont réchauffées plus vite que la Terre. D'après lui, dans certains pays du monde, avoir des glaciers, c'est avoir des réserves d'eau, surtout dans la cordillère des Andes ou au Ladakh où il est déjà allé. C'est donc un drame pour les habitants. Il a ajouté que les glaciers vont reculer, puis avancer de nouveau, quand les équilibres reviendront. C'est pas pour les glaciers qui n'ont pas d'âme qu'il faut s'inquiéter, mais pour les espèces en danger, comme l'ours polaire par exemple, et peut-être aussi l'homme si personne ne fait rien.
Il a aussi dit que l'homme ne devrait pas disparaître mais d'abord faire face à des problèmes sociaux, de santé, de ressources ou même de guerre, et que c'était à nous de jouer en restant intelligents, en évitant de croire n'importe quoi sur le web, en apprenant à vérifier toujours les informations que l'on reçoit.
Pour résumer, si on reste des citoyens éclairés, notre génération trouvera sûrement des solutions.
Merci à Laurent Guillaume pour l'interview. Et maintenant, zoomons sur le glacier du Rhône. Dario nous présente sa chronique et le regard d'une photographe sur le dérèglement climatique.
Bonjour à tous, je suis Dario, je vous laisse écouter. Il pleure. Il crie, il agonise. Le glacier du Rhône, le dérèglement climatique le torture. L'homme a voulu le recouvrir pour le garder un peu, mais ça ne fonctionne pas. Ce grand drap a attiré le regard de Laurent Piaget-Dubouy. C'est une photographe suisse. Elle a participé au projet de la FDDM, Fédération pour le développement durable des régions de montagne. Dans son interview donnée à la FDDM, elle explique son engagement. Elle veut parler de ce qui ne se voit pas. Pour elle, les montagnes et les glaciers, c'est l'éternité. Pourtant, elle est triste. Ses petits-enfants ne verront peut-être pas ces étendues éternelles. Elle explique, le drap est esthétique. Il lui fait penser aux peintures de la Renaissance. Il lui fait aussi penser aux naufragés du radeau de la Méduse. Dans le magazine L'Alpe intitulé « Sale temps pour les glaciers », on fait un parallèle avec l'Europe des migrants qui fuient parfois leur pays à cause du dérèglement climatique.
On quitte l'Europe et les Alpes pour l'Himalaya. Roman et Audric ont interviewé un autre artiste.
Nous avons interviewé un réalisateur, Stanzine Dorje Gya, qui vit dans une région au nord de l'Inde, le Ladakh. Il vient en France montrer ses films et répondre à des interviews. Il a réalisé 3 films, Jangwa, qui est le plus connu et qui a été diffusé pendant la COP21 en 2015. Ce documentaire rend compte des terribles coulées de boue qui ont détruit des villages entiers en août 2010. Il a aussi réalisé The Shepherdess of the Glaciers et Behind the Mirror. Il collabore avec Christiane Mordelet pour réaliser ces documentaires et c'est grâce à elle qu'il vient en France et que nous avons pu l'interviewer. Stanzi veut nous montrer les conséquences du réchauffement climatique dans son pays. Voici son interview. Arthur et Audric assurent la traduction pour nous aujourd'hui.
We are living in such a very fragile ecosystem in Ladakh À cause du réchauffement climatique, le Ladakh est un écosystème très fragile. Nous sommes en altitude. En 2010, 2012, 2014, nous avons vécu des catastrophes. Avant, en hiver, il faisait froid au Ladakh. Il y avait beaucoup de neige. Maintenant, il pleut.
So many snow. In the past, we not seen much rain. Now we have more and more rain. In 2012, like beaucoup neige, and like très froid, minus 30, and because of changing animal, so many animals around.
Beaucoup d'animaux sont morts, environ 20 000. Les animaux sont indispensables pour les habitants du Ladakh. Beaucoup de gens sont morts. Des coulées de boue ont ravagé nos habitations. Avec la fonte des glaciers, le pays s'assèche. Il y a de moins en moins d'eau. Les conséquences du réchauffement climatique sont nombreuses au Ladakh. Les sources d'eau ne sont plus apprivoisonnées. Les glaciers sont de moins en moins grands. Dans mon village, il n'y a qu'une source d'eau pour tout le monde. Malheureusement, la température augmente. Les animaux ont soif.
Problem because of no having any more water. All the springs are coming by melting glaciers. Now all these glaciers is getting up. All the snow lines is going up. There is no water for animals because you see the yak, one of the big animals.
Le yak, qui est un animal très important pour nous, ne survivra pas si la température continue de monter. C'est un animal qui vit dans le froid.
High temperature, warm temperature. Yak only can live in a menace, in a low temperature. If we have a warm temperature there, then we will lose our friends. You know, we will lose all our animals. Second thing is, we not used to see so many new insects.
De nouveaux insectes apparaissent dans les légumes. Ils mangent à l'intérieur de nos bons légumes. C'est un problème pour la population qui se nourrit principalement de légumes. Cette ressource est indispensable pour les habitants du Ladakh.
When we cut it inside, there is so many insects which is we never seen before. This is another thing. And then, you know, we have like so many wildlife.
Autre point, les animaux sauvages comme le léopard des neiges, le loup, l'aigle et beaucoup d'oiseaux, ils viennent au Ladakh puis repartent et reviennent selon les saisons. Beaucoup d'oiseaux ne reviennent pas. Il fait très chaud.
So many birds are living, they are not going. So that's why also on the other hand, so many viruses, so many bacteria.
De nouvelles bactéries et de nouveaux virus se propagent au Ladakh. Ce qui est un problème pour les populations qui n'ont pas de remède pour ces nouvelles maladies. Donc, il y a beaucoup de conséquences au réchauffement climatique.
Avez-vous été déjà pris dans une coulée de boue?
Ah, this is 2010, 5th August.
Oui, le 5 août 2010. Ça a été un vrai cauchemar.
Big nightmare.
Il y a eu une terrible coulée de boue au Ladakh.
There was a big noise. Boom, down. And water.
Il a beaucoup plu. On a entendu un très grand bruit.
Drying in the mud, you know. Animals going in the mud and people are shouting, "Help me, help me."
J'ai choisi de prendre ma caméra pour filmer la catastrophe qui a détruit tout le village, pour montrer au monde ce qu'ils ont causé avec leur pollution. Ça a été une décision très difficile à prendre. Les gens demandaient de l'aide, ils ne comprenaient pas.
So then I capture all the people are going. That what the Jungwa film which we make for Ushuaia TV.
Le documentaire a été diffusé sur Arte et sélectionné pour la COP21.
Officially selected for 2015, officially selected COP21. So that's why even like you know, we are like as a soldier, we are like as a journalist, we are like as a photographer, or like we have to be there as a professional.
Le monde a pu voir les conséquences du réchauffement climatique au Ladakh.
But anyway, today the movie is there as a witness. I live with this mud, yeah.
How did you survive?
Comment avez-vous fait pour survivre?
Huh. This is good things in that time in Ladakh. In Ladakh, we have a one.
Dans notre culture, l'important n'est pas soi-même, mais le groupe.
I. We thinking about we. And during that time, so many people lose their house, their food, but some other village invite us.
Je suis vraiment fier de cette culture, car c'est grâce à ça que nous avons survécu. C'est aussi grâce à l'entraide des villages alentours.
So it was so. This is our good culture. And second thing is.
Ceux qui avaient tout perdu se sont fait héberger et nourrir par ceux qui n'avaient pas eu de dégâts.
So the government of India. And then also because of lots of tourists.
Comme nous sommes près de la frontière, l'armée est venue nous aider. Puisque nous sommes dans un village où les touristes viennent, ils pouvaient nous aider.
Where do people from Ladakh?
Où est-ce que les Ladakhis migrent?
Generally, people in Ladakh, they don't want to migrate. They love Ladakh very much.
Généralement, les Ladakhis ne migrent pas vers d'autres pays, mais vers d'autres villages.
They want to go outside and they want to live in Ladakh. But within in Ladakh, they have a refugee. Not refugee that we have a war, we have something problems.
Le problème, c'est le réchauffement climatique. Nous allons devenir des réfugiés climatiques.
Sometimes some village don't have any more water, but still want to people live there. There is no water, there is no snow. They can't grow their vegetable there.
Dans la plupart des villages, ils n'ont pas assez d'eau.
Another in the village of Ladakh, you know, this changing of climate is really so difficult for us. In Ladakh, we never harm anybody. We never like think bad things because we are living in a we never contribute any to the global warming.
Les Ladakhis sont des victimes du réchauffement climatique alors qu'ils ne polluent pas.
We don't have much car, we don't have.
Ils n'ont ni voiture ni usine, mais pourtant ils croient que c'est de leur faute.
Because of the in the mountain not having snow, but that's why.
Les Ladakhis restent dans leur pays car ils sont fidèles à leur terre.
Refugee because we want to leave our country, we love our region.
Thanks you very much for this interview.
Merci Standing.
Thank you and Julie.
Julie.
Après ce voyage, partons pour une aventure de fiction avec Eva et Adriano et leurs papiers, nous on y croit.
Bonjour, nous sommes Eva et Adriano. Pour vous, nous allons devenir Essa, une jeune Guinéenne qui vit en Europe et son cousin resté au pays.
Fiction, science-fiction, avenir possible, nous on y croit.
Cher cousin, ce mail va te paraître étrange. J'ai quitté l'Afrique depuis 10 ans. J'ai voulu survivre aux phénomènes extrêmes, fichus, changement climatique. Toi, tu es resté là-bas et depuis tout ce temps, je t'ai pas donné de nouvelles. Mais voilà, le sabre rattrape. Hier, 24 décembre 2054, la tempête Carmen 25 a frappé plus fort que jamais. Heureusement, depuis des années, grâce au progrès, les prévisions météo sont précises. On a pu se mettre à l'abri. Les barrières de protection construites par les scientifiques sont de plus en plus efficaces. On s'adapte quoi. Mais aujourd'hui, ce phénomène violent m'a rappelé mon pays d'origine, ma famille et donc toi. Comment survis-tu? Est-ce que les conditions sont difficiles? Donne-moi des nouvelles.
Ma très chère Essa, quel bonheur de recevoir tes nouvelles. Enfin, je te réponds rapidement pour te rassurer. Le pays est aussi sec qu'avant ton départ, mais pas plus. Tu te souviens de la COP31? Eh bien, les engagements pris il y a 30 ans ont limité les dégâts pour nous. Bien sûr, c'est toujours difficile de cultiver et de trouver de la nourriture, mais nous aussi, on s'adapte, et ça marche. Donne-moi vite plus de détails sur la vie en Europe. Je t'embrasse.
Cher cousin, c'est vrai que ça valait le coup de consommer autrement, de préserver la nature. Heureusement que les règles ont changé. Heureusement que les gouvernements ont suivi. Heureusement qu'on a arrêté de saccager la terre. Heureusement qu'on a changé d'énergie. La COP31, les efforts de tous les progrès scientifiques nous ont aussi aidés. Alors oui, les tempêtes sont toujours violentes, mais la fréquence a diminué. Et toi, tu me parlais d'adaptation. Explique-moi.
Chère cousine, tu te souviens de notre terre asséchée et nos légumes qui ne poussaient plus par manque d'eau? Pourtant, la mer a augmenté et grignote nos terres. Eh bien, on a trouvé la solution, créer des fermes sous-marines. C'est juste une capsule d'air accrochée à 50 mètres de fond, comme ça, on peut faire pousser des plantes sous l'eau. Les conditions sont parfaites. Quelques mètres sous la mer, les plantes ont assez de lumière et d'eau.
Incroyable, des fermes sous-marines. De notre côté, de nombreuses associations nous aident encore à trier et recycler les déchets produits par nos grands-parents et parents. Grâce à ce recyclage, on arrive même à récolter de l'argent. Je voulais l'envoyer au pays pensant que les récoltes étaient difficiles.
Merci Essa, mais comme je l'ai dit, tout va bien ici. Gardez l'argent pour reconstruire après le passage des tempêtes et viens me voir à l'occasion.
Mon cousin, après tout ce que tu viens de me dire, tu me manques. Le pays me manque. Je voudrais venir te voir pour les vacances, qui sait, m'installer si mon copain tombe amoureux de la Guinée comme il est tombé amoureux de moi. À très vite.
Même si j'entends aussi l'orage s'éloigner, nos ivresses apaisées, la vie illimitée.
Et si justement, la solution, c'était l'amour. Nous quittons l'Afrique pour passer à un voyage extraordinaire avec Angelo. Il nous présente un autre amour, celui de la nature, dans sa chronique sur le film L'Odyssée de Pi.
Imaginez-vous, sur une barque, au milieu de la mer, aucune terre à l'horizon. Le redondant mouvement des vagues vous berce et vous éclabousse d'une eau fraîche et salée. De magnifiques poissons grandes nageoires bondissent hors de l'eau à vos côtés. Un grand drap rouge au fond de la barque vous intrigue. Sur vos gardes, vous vous approchez doucement, tendant votre main avec prudence. Mais soudain, alors que vous tendez votre bras, une énorme bête rousse jaillit dans un rugissement terrifiant. Pris par surprise, vous tombez à l'eau. Alors que vous ressortez votre visage pour respirer, un tigre du Bengale vous épie. Sa fourrure, humide et ébouriffée, le rend encore plus impressionnant. Aimeriez-vous partir en mer, seul, accompagné d'un tigre? Que feriez-vous pour survivre sur une barque au milieu de la mer? Aimeriez-vous partir pour une odyssée incroyable et pleine de rebondissements? Alors embarquez pour l'Odyssée de Pi. Ce film, réalisé par Ang Lee en 2012, a reçu le prix de la meilleure photo, des effets visuels et de la musique. Il vous fera donc voyager au cœur d'images sublimes et de paysages à couper le souffle. C'est l'histoire fabuleuse d'une amitié entre un adolescent indien et un tigre du Bengale. Mais c'est aussi l'histoire d'une lutte pour la survie. Ici, l'homme et la bête font cause commune. Dans la réalité, hélas, les animaux, pas plus que certains coins de nature, ne sont épargnés par l'homme. Cette odyssée est rendue sublime par les décors naturels. Mais lorsque cette même nature et son écosystème sont dévastés par l'homme, elle contraint à l'exil plus cauchemardesque que sublime. Être émerveillé par des images et rêver pour mieux se réveiller et réagir, voilà peut-être le vrai message de ce film.
Bonjour, nous sommes Anaïs
et Fatima
de la 4e D du collège Saint-Exupéry à Ambérieu-en-Bugey et nous avons la chance d'interviewer François Gémen.
Il est enseignant-chercheur en sciences politiques et spécialiste des migrations liées à l'environnement.
Bonjour François Gémen.
Bonjour, bonjour Anaïs, bonjour Fatima.
Vous avez accepté de répondre à nos questions, un grand merci.
Je vous en prie.
François Gémen, migrant, réfugié, demandeur d'asile, quelle est la différence?
Tous les mots que vous avez employés désignent en fait des types de migration différents. Migrant, c'est le terme assez général qu'on va employer pour désigner tous ceux qui sont obligés de quitter leur domicile, qu'ils migrent loin de chez eux ou près de chez eux, qu'ils migrent de façon permanente ou pour des durées plus courtes, mais toujours au-delà d'un an. Et donc, migrant, c'est le terme général qui va tout englober. Et puis, à l'intérieur de cet ensemble, il y a des personnes qui sont dans des situations particulières, qui vont demander une protection particulière. Ce sont les personnes qui fuient des persécutions, des violences, des conflits. Et ces personnes, lorsqu'elles fuient dans un autre pays, elles vont y demander l'asile, c'est-à-dire demander à recevoir la protection de ce pays. Et à ce moment-là, on va les désigner comme demandeurs d'asile. Et puis, si leur demande d'asile est acceptée par ce pays, elles vont recevoir un statut de réfugié. Si la demande est refusée, par contre, elles vont devoir soit rentrer chez elles, soit devenir sans papier, c'est-à-dire rentrer dans l'illégalité.
Dans une interview au quotidien Libération, vous parlez de population piégée. Vous pouvez nous expliquer ?
Ceux qui ont les moyens de migrer, parce que migrer ça coûte très cher, ce sont généralement les classes les plus privilégiées de la population. Ce sont les plus jeunes, les plus instruits, ceux qui ont plus de contacts, de connexions, etc. Par contre, à l'inverse, ceux qui sont les plus âgés, les plus vulnérables, les plus pauvres, généralement, ils n'ont pas les moyens de se déplacer. C'est comme ça qu'ils se retrouvent souvent piégés, incapables de migrer. Et on voit ça dans tous les pays, pour tous les types de chocs, que ce soit des chocs politiques ou des chocs environnementaux, comme des catastrophes naturelles.
D'où viennent principalement les migrants et pourquoi ?
Les migrants viennent généralement de pays du Sud, de pays en développement, et ils migrent la plupart du temps vers un autre pays en développement. C'est ce qu'on appelle des migrations Sud-Sud. Et puis, bien entendu, il y a des migrants qui cherchent à venir d'un pays en développement vers un pays industrialisé, que ce soit l'Europe, que ce soit les États-Unis et le Canada, mais que ce soit aussi des pays comme le Japon ou l'Australie, qu'on oublie souvent. Et puis, dans une moindre mesure, il y a des migrants qui cherchent à aller du nord vers le sud, d'un pays industrialisé vers un pays en développement, ou d'un pays industrialisé vers un autre pays industrialisé, de l'Europe vers les États-Unis. Mais donc, si on essaie d'avoir des grands chiffres, on estime qu'il y a à peu près aujourd'hui 1 milliard de personnes qui sont migrantes dans le monde. C'est-à-dire qu'une personne sur 7 est un migrant. Les 3/4 d'entre eux, ce sont ce qu'on appelle des migrants internes, c'est-à-dire des gens qui ont migré à l'intérieur de leur propre pays. Et puis il en reste 1/4, c'est-à-dire environ 240 millions, qui sont des migrants internationaux.
Chaque année, combien de migrants viennent en France ?
La France délivre chaque année à peu près entre 200 000 et 250 000 permis de séjour. Bien sûr, on ne sait pas combien viennent illégalement, mais c'est une petite minorité, et pour des raisons très différentes.
François Gémen, que pensez-vous de l'accueil français par rapport à celui des autres pays ?
Aujourd'hui, il y a une vraie crise de l'accueil en France. Il est certain que la France, d'abord, en fait beaucoup moins, accueille beaucoup moins de personnes que les autres pays européens, et surtout les accueille beaucoup moins bien. Et en réalité, ça fait partie d'une stratégie politique. La stratégie politique, c'est d'essayer d'accueillir les gens le moins bien possible, en espérant que ça ne leur donne pas envie de venir en France. Mais c'est complètement idiot, parce que les raisons qui poussent les gens à choisir un pays plutôt qu'un autre, ça ne tient pas du tout à l'accueil qui leur sera réservé dans ce pays. Et donc c'est une stratégie non seulement absurde, mais tout à fait inhumaine pour les migrants qui est menée en France pour le moment.
François Gémen, que pensez-vous du budget donné par l'État pour s'occuper des migrants ?
C'est un budget qui, à mon avis, est assez mal dépensé. Par exemple, on consacre énormément d'argent à ce qu'on appelle les retours forcés, c'est-à-dire à raccompagner de force les gens chez eux qui veulent rester. On dépense chaque année environ 400 millions d'euros pour cela. C'est-à-dire que chaque personne qu'on ramène chez elle de force coûte environ 20 000 euros, ce qui est considérable, évidemment. En gros, aujourd'hui, il n'y a pas un budget suffisant pour les capacités d'accueil et d'hébergement de la France. Il n'y a pas non plus un budget suffisant pour l'OFPRA, c'est-à-dire l'agence qui est chargée de traiter les demandes d'asile. Et s'il n'y a pas un budget suffisant, c'est parce qu'on est toujours dans l'idée que c'est quelque chose qui va passer, que donc il n'y a pas besoin d'allouer des moyens de long terme, il n'y a pas besoin, par exemple, de construire des foyers, parce que c'est quelque chose qui va passer. Et on n'a pas encore véritablement réalisé que ce n'était pas quelque chose qui allait passer et que c'était quelque chose qui allait devenir véritablement structurel et que donc il fallait qu'on affecte des moyens importants à cela. Et il fallait surtout qu'on organise ces migrations et qu'on essaye de les anticiper.
Est-ce que les migrants arrivent à trouver du travail ?
Oui et non. Le taux de chômage des migrants est plus important que celui de la population nationale. Et donc, il y a une grande injustice. Et ce taux de chômage plus important s'explique en grande partie à cause des discriminations que subissent les migrants. Discrimination sur le marché de l'emploi, mais aussi discrimination au logement, et toute une série d'autres discriminations qui restent très très présentes en France. Et puis les migrants occupent souvent des emplois qui sont délaissés par les Français. C'est par exemple des emplois, comme on dit, très peu qualifiés dans les secteurs de la construction, dans les secteurs du gardiennage et de la surveillance, dans les secteurs du nettoyage, dans les secteurs des services à la personne, de l'hôtellerie et de la restauration. Les migrants occupent aussi des emplois qui sont très qualifiés, des emplois d'ingénieurs par exemple, ou des emplois de médecins qui sont des emplois pour lesquels on ne parvient pas à trouver suffisamment de Français pour les occuper. Et puis il ne faut pas oublier que les migrants créent aussi énormément d'emplois et que le taux de création d'entreprises est très supérieur chez les migrants par rapport à la population nationale, simplement parce que les migrants partent aussi souvent avec un projet économique.
Avez-vous créé ou participé à une association pour aider les migrants ?
Je travaille régulièrement avec beaucoup d'associations qui sont très impliquées dans l'aide aux migrants. Par exemple, je fais des conférences pour l'auberge des migrants à Calais. Je travaille beaucoup avec Médecins du Monde. On a des projets de recherche ensemble. Pour le moment, je suis en train d'écrire un livre avec le directeur de Médecins du Monde Belgique. Et donc, oui, je suis très souvent en contact avec des associations qui sont impliquées dans l'aide et l'assistance aux migrants.
On a réalisé deux émissions de radio. Une pour les réfugiés climatiques et une pour les réfugiés politiques. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas toujours de différence. Qu'en pensez-vous ?
Non, bien sûr, ces catégories, ce sont souvent des différences artificielles qu'on cherche à créer, parfois pour justifier certaines politiques. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, comme les gens migrent pour des motifs qui sont imbriqués les uns dans les autres, les catégories qu'on crée entre migration politique, économique ou environnementale sont souvent des catégories artificielles et qu'en réalité, pour ceux qui doivent migrer, c'est souvent finalement une expérience assez similaire, quelles que soient les raisons pour lesquelles ils doivent partir.
François Gémen, merci d'avoir répondu à nos questions.
Vous êtes enseignant-chercheur en sciences politiques et spécialiste des migrations liées à l'environnement.
Merci beaucoup, bonne journée.
Radio B, Radio B.
Dans cette émission, nous nous sommes interrogés sur les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Nous avons dû casser les idées reçues. Nous avons eu la chance de rencontrer des professionnels et des artistes pour mieux comprendre. Nous retenons que ce sont nos actions qui ont des conséquences sur la Terre. On peut espérer que les avancées technologiques vont aider à changer les choses. Aujourd'hui, on commence par des petits gestes et on change nos habitudes.
Merci, chères auditrices et auditeurs, d'avoir écouté notre émission spéciale sur les réfugiés climatiques.
Merci à toute l'équipe de Radio B, Elodie, Pauline et Audrey.
À nos professeurs, mesdames Archambault, Mathieu, Duchesne, Billot, Martin.
À toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette émission, Sandine Dorjay, à Laurent Guillaume, à Gaëlle Lettenay, d'Alex01, à François Gémen et aux adultes de notre collège.
Et encore un grand merci à vous, chères auditrices et auditeurs.
C'était Dario,
Eva
et Adriano avec
Angelo,
Audric,
Rémi Maxime,
Arthur,
Younes,
Kylian,
Toine,
Fatima,
Anaïs.
Une dernière chose, retrouvez la première émission réalisée par notre classe, la 4e D du Collège Saint-Exupéry, à Ambérieu-en-Bugey sur radio-b.fr. Dans la rubrique Les émissions, les ateliers de Radio B, c'était sur les réfugiés politiques.
Et la nôtre alors ?
Pas d'inquiétude, elle sera au même endroit.
Oh.